Les salutations pour vous tous du groupe de Plonet-Ourlan-Verne. Nous étions dimanche dernier et de leur pasteur Luc Buissonni. Voilà, pense bien à vous. Merci pour le fait d'être là, ensemble. On peut se dire merci les uns aux autres, mais surtout, merci Seigneur. Je vais vous faire quelques lectures. La première se trouve au livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 1er. Kohélète, comme on dit en hébreu. Kohélète, ça vient de Kahal, qui signifie assemblée. Et ça, il y a un glissement de sens en français, c'est devenu l'Ecclésiaste. Parce que l'Ecclésia, c'est l'assemblée du Seigneur. Voilà. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève, de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Heureusement pour vous, hein. Sur la côte atlantique. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Enfin, j'espère que ce matin... Ce qui a été... C'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Voici, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Voilà, je m'arrête là. On va faire une deuxième lecture maintenant. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et au début du chapitre, et vous savez déjà de qui il est question. Jean, chapitre 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit... « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment ? Un homme peut-il naître quand il est vieux ? Il ne peut tout de même pas rentrer dans le sein de sa mère et renaître. » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Un petit dernier pour la route ? Actes des Apôtres, chapitre 17. verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habite sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement, l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que le Seigneur bénisse sa parole et que le Saint-Esprit nous assiste pour la proclamer et pour l'entendre. Amen. Peut-être vous poserez la question, mais ça, qu'est-ce que ça a à voir ces textes-là, ensemble? Ben, nous verrons. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Ce mot, en hébreu, c'est ce qui a donné naissance au nom d'Abel. Hevel Havalim. Buée ou vapeur. La version français 21, le second 21, traduit futilité. André Chouraki traduit plus exactement fumée. Fumée de fumée, tout est fumée. C'est pas lourd la fumée, hein? Avez-vous essayé de peser la fumée sur une balance? Il n'y a rien de plus léger, de plus éphémère, que de la vapeur, de la fumée. Telle est la façon que l'Ecclésiaste a de nommer la vie humaine, le monde, les choses, les gens, les événements. J'ai presque envie de croire qu'il en dit, c'est de l'enfumage tout ça. C'est de la fumée. Il y a un mot que j'aimerais lui opposer. C'est le mot « gloire ». Le contraire de la vanité, de la fumée, de la futilité, c'est la gloire. Parce qu'en hébreu, ce mot « gloire » veut dire ce qui a du poids. C'est du lourd. Alors, on pourrait intituler ce message, je m'adresse à Patricia, « De la vanité à la gloire ». On va essayer de parcourir ce chemin de la vanité, de la légèreté insignifiante, à la gloire. À la gloire qui s'est manifestée en Jésus-Christ. On est encore au mois de janvier, donc je peux poser une question. Est-ce qu'une nouvelle année peut vraiment apporter quelque chose de nouveau? Vous allez me répondre, parce qu'on a entendu, ben, on hésite un peu. Non, bien sûr. Car le déroulement du temps des hommes, relève du mouvement du cosmos. Toutes choses sont en mouvement, en pulsation. C'est l'éternel recommencement. Nous n'y pouvons rien. Le cosmos est cyclique. Tout recommence à l'infini. Et cela, de tout temps, on le sait. Et de tout temps, la contemplation des cycles de la vie naturelle a fortement impressionné et inspiré les esprits des hommes. La plupart des religions du monde, pour ne pas dire toutes, fondent leurs croyances là-dessus. Et pour le juif, Paul, le chrétien, Paul, ça l'énerve. En se promenant dans les rues d'Athènes, et il aura cette parole quand même diplomate, je vous trouve extrêmement religieux. Voilà. L'hindouisme, par exemple, a imaginé le cycle des réincarnations. Les Grecs, la métempsychose des âmes errantes. Les Perses, encore autre chose. Les Chinois, sûrement autre chose. Je ne suis pas, hein. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pareil. Toutes les civilisations archaïques, dans toutes ces civilisations qui ont leurs racines perdues dans la nuit des temps, ont des croyances voisines, très proches de ce qui est cyclique. Il y a aussi l'astrologie qui, étonnamment, a conduit certains hommes à venir se prosterner devant Jésus à Bethléem. Nous avons vu son étoile en Orient. Ça m'a toujours étonné, ça. Mais ils sont repartis par un autre chemin, nous dit le texte. Ah ! On assiste même aujourd'hui à un retour de ces croyances, de ces choses qui montent spontanément au cœur de l'homme, en dehors de l'aspiration du Saint-Esprit. On retrouve aujourd'hui un engouement pour des histoires d'anges, d'anges gardiens, d'astrologie, bien sûr, et j'en passe. Il s'agit là de ce que l'apôtre Paul appelle dans son discours à Athènes les tâtonnements. Les tâtonnements, comme des aveugles qui cherchent leur chemin. Ou alors, il a un autre mot, il dit, ce sont les temps d'ignorance. Certaines de ces doctrines ont peut-être une apparente beauté, une apparente majesté, mais Paul dit, ce sont les temps d'ignorance. Et ça, c'est universel. Or, nous avons entre les mains ce matin une Bible. Ça, c'est une Bible. D'où vient-elle? Qui l'a écrite? Quelle est son intention? De quoi est-elle le symptôme? Eh bien, voici. Grâce à ses prophètes inspirés, grâce à la loi de Moïse, Israël échappe, lui seul, à la lourdeur de toutes ses croyances. Dieu lui interdit l'astrologie et toutes les formes de divination. Il dit à son peuple, tu ne les craindras pas, tu dépends de moi. Et il annonce, Deutéronome chapitre 18, la venue d'un prophète. Le Seigneur suscitera parmi vos frères un prophète. Et là, je ne répète pas lettre mot à mot le verset, mais ce qu'il nous dit en fait, le Seigneur suscitera parmi vous un prophète dont la parole sera décisive pour votre salut. Voilà. Un prophète annoncé par Moïse, et les auteurs du Nouveau Testament nous disent que ce prophète-là, c'est Jésus. Il est la parole faite chair. Il est cette parole de Dieu qui a créé les mondes. Même si le livre de l'Ecclésiaste, qui est aussi dans la Bible, déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'envisage pas de plan B. Alors il dit, vivons pleinement notre vie, en tenant compte du Dieu créateur et juge final. Seulement, l'Évangile a quelque chose de mieux à nous dire. La nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème relève d'un autre ordre. Il ne s'agit pas d'un plan B. Et Nicodème comprend bien qu'il y a un truc un peu louche, là. On ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère, la pauvre femme. Non, la nouvelle naissance relève d'une intervention historique de Dieu dans l'histoire. Une intervention qui ne doit rien à la culture des hommes, à la religion des hommes et des femmes de ce monde. Une intervention qui ne doit rien à la technique, à la science, à la recherche philosophique. Non, l'intervention de Dieu dans le monde, elle a un nom, c'est la venue, c'est les paroles, ce sont les gestes de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est intervenu dans l'histoire de manière totalement unique, inouïe. J'allais presque dire brutale, mais ça colle mal avec la notion de l'amour. En fait, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique. Et cette intervention est la première et la dernière. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Nous sommes bêta et psi. Ça va? Dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul résume très magnifiquement, et je pense que c'est probablement la transcription d'un hymne qui était chanté dans les églises de son temps. Il dit ceci, « Il faut reconnaître le mystère de la piété est grand. Il a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit. Il est apparu aux anges, proclamé aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Voilà l'intervention de Dieu dans l'histoire, dans le monde. Elle a été annoncée par les prophètes, elle a été préparée comme dans un laboratoire qui s'appelle le peuple d'Israël, car le salut vient des Juifs. Elle a été acheminée à travers l'histoire de ce peuple jusqu'à ce que les temps soient accomplis et qu'apparaisse enfin l'enfant de Bethléem. L'intervention de Dieu dans le monde des hommes. Pour accueillir dans la foi cette intervention de Dieu, il faut l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. » Qu'est-ce que ça veut dire, naître d'eau? Eh bien, certains commentateurs disent que c'est une allusion au baptême. Certes, c'est vrai que nous manifestons notre foi par le baptême. Nous confessons notre adhésion totale à cette intervention de Dieu dans l'histoire. Cette intervention qui nous arrache à la mort, au péché, aux puissances ténébreuses, aux tutelles angéliques et spirituelles de tous ordres, cette puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ Sauveur, et en nous faisant baptiser, nous déclarons que nous adhérons à ça. C'est ça l'intervention de Dieu dans le monde des hommes. C'est paradoxal, parce que justement, ça commence petitement, en fait. Luther disait, si tu veux rencontrer Dieu, n'escalade pas le ciel, va donc à Bethléem. Oui. Naître d'eau. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la parole de Dieu a été d'abord annoncée et qu'elle a été accueillie par la foi. Car elle témoigne, la parole de Dieu témoigne du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, elle témoigne de cette intervention de Dieu dans l'histoire. C'est l'histoire de cette intervention divine. C'est ça la Bible. Du début à la fin. C'est comme ces rivières, vous savez, dans le Jura, il y a une rivière comme ça qui s'appelle le Doubs. Certains peut-être connaissent, hein. Elle apparaît par certains moments, puis tout d'un coup elle disparaît. Elle engloutit dans le sol, puis elle reparaît un peu plus loin, puis après elle fait un saut, le saut du Doubs. C'est un lieu touristique. Eh bien, c'est ainsi. L'intervention de Dieu dans le monde des hommes est parfois forte, apparente, parfois discrète, voire même invisible, jusqu'à ce qu'elle surgisse finalement avec Jésus-Christ. Jésus-Christ signale la fin de l'histoire. Beaucoup de gens attendent la fin du monde, mais elle nous a déjà été signifiée à Golgotha. À Golgotha, c'est le dépôt de bilan. C'est fini. Il n'y a plus d'histoire qui ait de sens après Golgotha. Ce qui peut encore donner du sens à notre vie, à notre histoire, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par les conséquences que cela porte dans nos vies, cela peut contribuer à rendre le monde meilleur, quand même, différent. C'est à cette œuvre divine, au cours des âges, que Jésus pense quand il déclare, c'est dans Jean chapitre 5, verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, c'est pourquoi moi aussi j'agis. » Mon Père est à l'œuvre, depuis toujours, dès le commencement. Dieu a un projet en tête. Et j'aime bien la traduction d'André Chouraki, vous le savez maintenant. Le premier verset de la Bible, que nos versions traduisent habituellement par « au commencement », André Chouraki le traduit « en tête ».« En tête ». Comme une en tête, mais ça a un double sens. C'est ce que Dieu a en tête dès les premiers instants de la création. Il a en tête les cieux et la terre, les cieux et la terre réunis, récapitulés. Et il va travailler la pâte humaine comme un potier. Il va travailler l'histoire. Il va patienter. Il va laisser les hommes tâtonner. Il va supporter avec une longue patience leur temps d'ignorance. Jusqu'à ce qu'arrive enfin que naisse celui qui devait naître comme un aboutissement de l'histoire du monde et d'Israël. Mon Père agit jusqu'à présent, dit Jésus, sans quoi, s'il n'en était pas ainsi, tout se serait effondré depuis longtemps. Et Pierre rappelle dans sa deuxième lettre, chapitre 3, verset 5, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu et que les cieux et la terre de ce temps-là périrent submergés par l'eau. Et il dit les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La parole de Dieu tient tout, dès le début jusqu'à la conclusion. Et Pierre rejoint en cela le témoignage de l'évangile de Jean, en son prologue, au début, Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a tout créé, elle a tout fait naître et elle va tout racheter. Tout finira par le bon grain dans la grange. Vous connaissez cette parabole? Un homme avait semé du blé dans son champ, et puis quand ça a commencé à pousser, il y a de l'ivraie au milieu, là. Qu'est-ce que ça fait, là? Les ouvriers veulent l'arracher, l'ivraie. Et le maître leur dit non. Laissez pousser ensemble jusqu'à la moisson. Patience. Parce que si vous voulez arracher l'ivraie maintenant, vous allez aussi arracher le bon grain. Alors n'y touchez pas. Laissez-les croître ensemble. Et au fond, il n'y a pas de résumé plus condensé, plus court que l'histoire du monde, là. Au départ, il y a du bon grain, puis il y a une parenthèse qui s'ouvre, il y a de l'ivraie, du zizanium. Et puis, un jour, la parenthèse se ferme et il n'y aura de nouveau que du bon grain. Autrement dit, Dieu, dans sa souveraine grandeur, contient l'histoire du monde, entre parenthèses. Mais il ne l'abandonne pas, cependant. Dans cette parenthèse de l'histoire du monde, Dieu agit secrètement à l'œuvre. L'action de Dieu dans l'histoire est discrète. Jésus a une autre parabole pour dire cela, c'est la parabole de cette femme qui met du levain dans 3 mesures de farine. C'est secret le levain. Il y en a un tout petit peu. Il est enfoui. Mais il fait pourrir toute la pâte. Il fait lever toute la pâte. Eh bien, Jésus dit que le règne de Dieu, c'est aussi cela. C'est une présence discrète, secrète, une action de Dieu, une action divine, qui ne se voit pas jusqu'à ce que la pâte soit levée, jusqu'à ce que les temps soient mûrs. Et quand Jésus commence sa prédication, que dit-il? Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que Paul dit aux Athéniens aussi. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La fin du monde est une bonne nouvelle. Oh oui, qu'on en finisse. Je reviens au moment de la création et plutôt de Noé. Vous savez, on a parlé il y a 2 semaines, je crois, de la tour de Babel, qui visait à coaguler toute l'humanité. Dieu s'oppose, parce que c'est mortifère à ce projet. Mais juste après, il y a le chapitre 12, où un homme se détache, un peu comme Nicodème d'ailleurs, qui se détache d'une foule pour venir voir Jésus de nuit. Eh bien là, il y a un homme qui se détache, c'est Noé. Non, c'est Abraham. Abraham se détache et il va commencer, semble-t-il, une nouvelle page d'histoire. Mais je me suis mélangé un peu dans mes notes. Avant cela, il y a Noé. Il y a le déluge qui engloutit dans l'eau le monde d'alors. Et puis, tout à coup, à la fin de 40 jours, Dieu met un terme à cela et il y a un nouveau monde qui commence avec Noé. Un monde qui, lui aussi, sort de l'eau, comme le premier. Mais voilà, il n'y a rien de vraiment nouveau dans ce nouveau monde de Noé. La puissance du déluge n'a pas été capable de purifier les cœurs humains, de changer les esprits. Très vite, le mal s'est répandu à nouveau. Alors c'est là qu'intervient Abraham, l'appel de Dieu. Et là aussi, une nouvelle page d'histoire semble vouloir s'écrire. Après le coup d'arrêt au projet de Babel, une nouvelle étape du travail de Dieu peut commencer. Il ne s'était pas arrêté, mais une nouvelle étape est franchie. Commence alors avec Abraham les méandres interminables de l'histoire du peuple élu. Ah, Dieu a de la patience, oui. Ça va être long. C'est l'histoire, au fond, de l'ouvrage persévérant de Dieu. Dieu est entêté. Si je peux me permettre ce jeu de mots avec ce que je disais tout à l'heure. Dieu poursuit avec entêtement ce qu'il a en tête au commencement. Dieu poursuit son œuvre. C'est l'histoire de l'ouvrage persévérant de Dieu jusqu'à ce que puisse advenir ce qu'il a en tête dès le commencement, tout récapitulé dans le Christ. Nous n'y sommes pas encore tout à fait, mais la plupart du chemin est fait, car Jésus a accompli la victoire sur la croix. Et à partir de la croix, l'histoire du monde, j'ai envie de dire qu'elle est en roue libre. Elle n'a plus de moteur. L'histoire du monde n'a plus de moteur. Alors les êtres humains s'acharnent, ils essaient de créer des moteurs. Il faut relancer la machine économique, technique, scientifique, philosophique. On essaie de réanimer ce cadavre. Peine perdue. Ce qui donne vie au monde, c'est le pain vivant qui donne la vie au monde. Jésus-Christ, l'intervention inouïe, souveraine, gracieuse de Dieu. En Suisse, quand on veut décrire un comportement libre et souverain, on dit qu'il se royaume. Tu as entendu ça, Francine, hein? Dans le canton de Vaud. Ah, celui-là, il se royaume. Il se croit, en fait, comme chez lui. Eh bien, oui, Dieu se royaume dans l'histoire. Alors, c'est l'histoire de cet ouvrage persévérant que la Bible et l'Évangile, comme un long fleuve pas tranquille, l'histoire aspire. Elle aspire à la venue du Messie. Elle soupire et gémit dans les douleurs de l'enfantement après la venue glorieuse et souveraine du Messie, du Christ de Dieu, de son règne. J'aime bien cette histoire de l'enfantement, n'est-ce pas ? Dans le sud de la France, quand une femme est enceinte, on dit qu'elle est en espérance. C'est pas mal. Nous sommes tous en espérance. Nous sommes tous gravides pour les hommes, enceintes pour les femmes. Vous saviez que vous étiez enceinte ? Non, ce serait une mauvaise surprise hein, pour certaines. Mais au fond, nous portons en nous quelque chose du monde qui vient, du règne qui vient. Quelque chose bouge et s'agite en nous, nous dérange, nous empêche de dormir parfois. Enfin, je ne sais pas si la venue du royaume de Dieu vous empêche de dormir. Non ? C'est bien dommage. Nous, ça devrait nous réveiller, en fait. En tout cas, ça nous empêche de dormir en utilisant une métaphore. Hein. Ne dormons pas comme les autres. Parce que le royaume bouge en nous. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse ou je chante comme David, dit un petit cœur. Moi, je dis mieux que David. Oui, c'est l'histoire d'un long fleuve pas tranquille qui aspire à la venue du Messie, en qui s'accomplira enfin le mystère de l'intervention souveraine de Dieu dans ce monde. N'en retrouve-t-on pas un écho dans le récit du baptême de Jésus ? Là encore, au sortir de l'eau dans laquelle le Baptiste l'a plongé, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et là, on a des réminiscences du récit de la Genèse, de la création, du récit du déluge avec la colombe qui vient. C'est formidable, les harmoniques. Je parle d'un terme un peu musical, mais les harmoniques qu'on peut trouver dans la Bible. Oui, Jésus sort de l'eau, quelque chose de nouveau, de vraiment nouveau commence. La voix de Dieu se fait entendre. Celui-là, c'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout peut commencer. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Vous connaissez ? Oui, tout est possible à celui qui croit. Tout peut changer maintenant, maintenant, pas avant. Maintenant que Jésus est venu, une nouvelle alliance, une espérance de changement complet, un vin, une eau transformée en vin, un pain multiplié, une moisson surabondante, une pêche miraculeuse. Et le baptême des croyants réitère cette bonne nouvelle. Chaque fois que nous sommes baptisés dans l'eau, nous réitérons une bonne nouvelle. Nous nous engageons pour une bonne conscience envers Dieu. En fait, j'attire votre attention, s'engager pour une bonne conscience, est-ce que c'est pour l'obtenir ou c'est parce qu'on l'a obtenue, cette bonne conscience? Comment l'obtient-on? Vous pouvez me dire? Vous n'osez pas, hein? Mais par la foi, mes amis, c'est un cadeau. C'est le cadeau de Dieu, cette bonne conscience. Et c'est ce cadeau qui nous engage. C'est peut-être plus une réponse même que nous adressons à Dieu en nous faisant baptiser. L'engloutissement dans le baptême nous dit que la mort de Jésus a englouti notre monde ancien. Elle est plus puissante que le déluge pour donner naissance au monde nouveau de Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert pour les péchés une fois pour toutes. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, déjà, à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement ou la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Pierre réécrit ce que Paul a écrit, nous avons lu ça tout à l'heure, c'est ce fameux hymne, c'est un peu les mêmes pensées qui sont là. Naître d'eau, c'est donc accueillir la parole, la mettre en pratique, et s'engager dans cet événement qui n'a pas de fin, qui est l'intervention de Dieu dans notre monde. Et naître de l'Esprit alors, c'est quoi ? À Nicodème, Jésus déclare que tout homme né de l'Esprit échappe à notre analyse, à notre connaissance. Quand il dit « le vent souffle où il veut », il ne parle pas du Saint-Esprit. Il parle de tout homme qui est né de l'Esprit. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et les gitans chantaient ce petit cœur. Je ne sais pas ce qui se passe là dans mon cœur. Depuis qu'il m'a fait la grâce, c'est le bonheur. Oui, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est là. C'est là. On n'a pas compris qui était Jésus de son temps. Ses contemporains ne comprenaient pas. Il l'accusait de blasphème. Tu te fais Dieu. Vous n'avez pas besoin de ça. Il est. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que ça se passe. Né de l'Esprit, C'est vraiment un changement profond, une nouveauté absolue. C'est ce qui illustre l'image du vent insaisissable. Ce que le baptême dans l'eau permet de dire, le Saint-Esprit le réalise. Au fond, nous disons oui et amen à Dieu, et le Saint-Esprit nous répond par le oui et l'amen de Dieu sur nos vies. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Dieu t'approuve. Dieu t'accompagne. Dieu t'inspire. Enfin, j'espère. Nous sommes transformés à son image par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça, naître de l'Esprit. Ce qui nous est demandé, c'est de consentir simplement à être bouleversé, consentir à ce travail d'enfantement. Comment ton prénom déjà ? Eric nous disait tout à l'heure, c'est un travail constant, la foi. Eh bien, ouais, c'est le travail de Dieu, un travail d'enfantement. Par la foi, nous sommes entrés dans plus important qu'une nouvelle année, dans le nouveau monde de Dieu. Nos vœux et nos bénédictions peuvent être adressés chaque jour, tout au long de notre vie. Au fond, le nouvel an est un non-événement. Le nouveau monde de Dieu est un avènement. Alors, fêtons-le joyeusement tous les jours. J'ai un collègue qui disait, parce que on a passé l'an 2000, il y a déjà pas mal de temps, il y avait tout un tintouin dans la presse pour le nouveau millénaire, l'anniversaire de ceci, de cela. Et il disait, c'était mon ami Laurent Schlumberger, il disait, on devrait souhaiter les non-anniversaires, parce que c'est beaucoup plus fréquent. Alors je vous souhaite à tous un nouveau monde constamment renouvelé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.